Et cette semaine, dans les conversations avec Daniel Abert, on revient sur le calme, entre guillemets, à Gaza et sur la menace de la guerre au nord du pays. Voici donc Daniel Abert au micro, comme chaque fois, ou quasiment presque, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Abert.
Bonjour, bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis matins à cette heure-ci. Alors Daniel, la semaine dernière, nous parlions de la situation, comme principalement depuis le 7 octobre. Notre analyse de la semaine dernière était le fait qu'on parlait moins de la situation à Gaza, on parle beaucoup plus du Hezbollah et de la situation au nord. Avec vous, essayons de comprendre, de démêler un peu cette situation.
Tout à fait, mais il faut quand même parler de Gaza parce qu'il se passe beaucoup de choses à Gaza. Les opérations militaires, elles continuent, mais elles sont dans ce que Tsahal appelle une troisième phase. La première phase, c'était les bombardements massifs d'octobre et de novembre. Ensuite, c'était les opérations successives sur Gaza, Khan Younes, Rafah, et la prise surtout de la frontière entre Gaza et l'Égypte, donc des opérations assez lourdes. Et aujourd'hui, on est passé à une phase beaucoup moins virulente et en tout cas beaucoup moins médiatisée, où ce sont des opérations plus ciblées, avec beaucoup moins de monde. Je pense que l'essentiel du travail de Tsahal, c'est le repérage des tunnels. On n'a pas fini ce travail et la mise hors d'état d'utilisation de ces tunnels sans les détruire complètement, mais il faudra le faire plus tard. Et surtout de consolider la frontière entre Gaza et l'Égypte, parce que tant qu'elle n'est pas hermétique, cette frontière, les forces du Hamas pourront se reconstituer très, très, très facilement. Si vous voulez, en plus, l'important, c'est de faire entrer l'aide humanitaire. Et vous aurez remarqué qu'on ne parle plus non seulement de famine, ni même de risque de famine. Alors, on entend de temps en temps les dirigeants des organismes humanitaires qui sont anti-israéliens, comme c'est pas possible, et qui continuent à brandir ça comme une arme de communication anti-Israël. Mais en réalité, donc, il n'y a pas de problème d'aide humanitaire. Et donc, si vous voulez, on peut se dire qu'aujourd'hui, Israël tente de renforcer autant que possible sa position de négociation, puisqu'on sait que, et bon, il y a une négociation possible. Il faudra bien un jour mettre fin aux opérations de Gaza, et très franchement, on ne sait pas quand et comment ça va se faire, tout en se rappelant que le Hamas a beaucoup gagné, et qu'au fond, il continue à penser pouvoir gagner en gagnant du temps, et en espérant que la pression internationale, mais surtout que la pression interne en Israël, avec la reprise des divisions en Israël, des difficultés politiques que rencontre le Premier ministre, etc., joue un rôle pour accélérer les négociations et trouver pour le Hamas une meilleure solution, sachant qu'il détient toujours les otages et que ça ne quitte pas les esprits de tous les Israéliens, de tous les Juifs dans le monde. Voilà, donc on en est là et on ne sait pas trop quand on va en sortir.
Il y a un danger qui est récurrent depuis longtemps et surtout depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas, c'est le danger iranien. Quelle est l'alternative à cette guerre, Daniel?
Alors, si vous voulez, on parle, si vous voulez, l'Iran, l'axe chiite, le Hezbollah, tout ça, c'est au nord d'Israël. Gaza, c'est au sud. Or, depuis 30 ans que j'analyse la situation en Israël, on a toujours déterminé que le vrai danger pour Israël est au nord. D'ailleurs, on a déplacé un certain nombre de quartiers généraux et de recherches militaires extrêmement importants d'Israël du nord vers le sud, parce que c'est du nord qu'on a le plus de craintes. Et c'est vrai que pour Israël, le vrai danger, c'est l'Iran, avec tous ses supplétifs qui sont le Hezbollah, bien sûr, et ses milices pro-iraniennes qui sont en Syrie, en Irak et en Cisjordanie. Donc, si vous voulez, il faut s'y préparer. Mais la difficulté ici, c'est que c'est un gros morceau, si j'ose dire, de parler de l'Hezbollah, des milices et de l'Iran. Et que la vraie question, c'est est-ce qu'Israël peut faire ça tout seul? Alors, certains pensent que oui, qu'il ne faut pas hésiter, mais tout le monde sait que, et on voit bien la situation à Gaza, sans approvisionnement militaire constant, Israël ne peut pas mener des guerres longues. Or, s'attaquer au nord, ça sera encore plus long. Donc, si vous voulez, si les Américains ne sont pas d'accord, ne serait-ce que pour fournir un appui militaire, ne serait-ce que pour fournir un appui logistique global et de renseignement, ne serait-ce que pour les accompagner, les Israéliens, dans leurs actions, ça sera très difficile, voire impossible. Et là, il faut bien replonger dans la politique américaine, parce qu'on est en plein dedans, hein. Il faut savoir que depuis Obama, depuis les années 2010, l'idée fondamentale de la politique américaine, elle n'a pas changé avec Trump, elle n'a pas changé avec Biden, elle ne changera pas avec Trump quand il reviendra, s'il revient, c'est on ne fait plus de guerre au Moyen-Orient, on ne fait plus de guerre quand on est américain en Europe. On garde toutes ses forces, ses énergies, sa puissance militaire pour l'ennemi ou le défi principal qu'est la Chine. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une différence stratégique entre les intérêts d'Israël et les intérêts américains, ou plutôt les pratiques que sont prêts les Israéliens à mettre en place et les Américains. Et donc, tout ça mérite une négociation. Et cette négociation, elle tourne au fond d'une chose très, très simple. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de l'Iran et du Hezbollah si on leur fait pas la guerre? Donc l'alternative, on voit bien qu'elle se dessine, qui est de mettre en place une stratégie de dissuasion efficace. Comment dissuader le Hezbollah d'attaquer? Comment dissuader l'Iran d'attaquer, sachant que l'Iran profite de tout ce chaos pour accélérer la construction de plusieurs bombes? Et je pense que dans beaucoup de milieux américains et même israéliens, on prend en compte l'idée qu'on aura affaire bientôt à un Iran nucléaire. Ce qui change pas forcément toute la situation, mais quand même beaucoup. Donc, en conclusion, on voit bien que la négociation qui est secrète pour l'essentiel entre les Américains et les Israéliens, Gallant est allé plusieurs fois voir aussi bien Jack Sullivan que le ministère de la Défense. On voit bien que tout ça est en train de se discute autour au fond de trois choses. Un traité de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Donc, à quel moment ce traité peut-il reprendre, le dialogue peut-il reprendre et peut être signé? Comment, autour de cet accord avec l'Arabie Saoudite, construire un axe sunnite autour de l'Arabie Saoudite avec ceux qui ont déjà signé la paix avec Israël? Et troisièmement, quel type de garantie de sécurité les Américains vont apporter à cet ensemble sunnite plus Israël pour qu'ils puissent se sentir en position de force et en position de dissuasion. Voilà, voilà ce qui est un peu en train de probablement de se discuter.
Il nous reste 2 minutes, Daniel Habert. J'avais une question à vous poser. Vous parliez de la politique américaine, justement, ce fameux débat qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, opposant les présidents Trump et Biden, pardon. Peut-il changer quelque chose? La politique américaine peut-elle changer après novembre?
Écoute, je pense qu'effectivement, ça change tout, parce que tout le monde regarde. Alors, quand je dis tout le monde, c'est Israël, mais c'est aussi l'Arabie Saoudite et c'est aussi l'Iran. Tous les protagonistes regardent évidemment ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, et évidemment l'hypothèse d'un retour de Trump prend corps. Encore. Alors, est-ce que Trump aura une politique, une stratégie de politique extérieure très différente de Biden? On sait que non. C'est la même stratégie. Par contre, les positions de Trump tactiques vis-à-vis d'Israël sont extrêmement positives. Il n'a pas ce parti démocrate qui tire Biden vers le bas en ce qui se concerne Israël. Donc, chacun peut espérer en Israël que Trump sera un meilleur choix. Et quant aux Saoudiens qui doivent donc reprendre le dialogue avec les États-Unis, on sait que Mohamed Ben Salman, lui, a été choqué par les insultes de Biden. Donc, si Biden n'était plus là, pour lui, Trump, c'est peut-être aussi plus facile. Donc, il est très possible que tout le monde attende. Et donc, la conclusion de notre conversation d'aujourd'hui, c'est de dire que tout ça va encore durer pas mal de temps. Et au fond, on a deux échéances qu'il faut avoir en tête d'ici la fin de l'année. Le 24 juillet, et si Bibi va à Washington parler devant le Congrès, qu'est-ce qu'il va dire? Là, y aura-t-il des surprises, des annonces spectaculaires? Et la deuxième, c'est qu'il faut attendre novembre, probablement, les élections américaines, avant que beaucoup de choses se débloquent. Donc ça veut dire aussi que les opérations à Gaza peuvent encore durer beaucoup de temps, ce temps que les Israéliens avaient annoncé dès le départ qu'il serait nécessaire pour arriver jusqu'au bout, et notamment détruire les tunnels. La présence de Tsahal à Gaza est encore nécessaire pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir, de revenir là-dessus dans nos conversations. Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine.